Emmanuel Kant, prolégomène à toute métaphysique future, qui aura le droit de se présenter comme science. Troisième partie. Troisième partie, comment une métaphysique en général est-elle possible? Chapitre 40. Une mathématique et une physique pure n'avaient besoin, dans l'intérêt de leur sûreté et de leur certitude, d'aucune déduction telle que je l'ai donnée pour chacune d'elles. Car la première se fonde sur sa propre évidence, et la seconde, quoique sortie des pures sources de l'entendement, est cependant basée sur une expérience et sur la confirmation constante qu'elle peut en recevoir, dont elle ne peut par conséquent pas plus répudier le témoignage qu'elle ne pourrait s'en passer, parce qu'avec toute sa certitude comme philosophie, elle n'est jamais comparable aux mathématiques. Ces deux sciences ont donc nécessité la dite recherche, non pour elle-même, mais dans l'intérêt d'une autre science, la métaphysique. La métaphysique s'occupe non seulement des notions naturelles, qui trouvent toujours leur application dans l'expérience, mais encore des notions pures de la raison qui ne sont jamais données que dans une expérience possible. Par conséquent, de notions dont la réalité objective, alors même qu'elle ne serait que des chimères, et d'affirmations dont la vérité ou la fausseté ne peut être confirmée ou déclarée par aucune expérience. Cette partie de la métaphysique est en outre celle qui en constitue le but essentiel, pour lequel tout le reste n'est qu'un moyen, ce qui fait que cette science a besoin pour elle-même d'une pareille déduction. La troisième question qui s'offre à nous maintenant concerne donc comme le noyau et l'essence de la métaphysique, c'est-à-dire l'application de la raison à elle-même et, puisqu'elle couvre ses propres notions, la connaissance des objets qui en résultent présumablement, sans avoir besoin pour cela de l'intervention de l'expérience et sans qu'on puisse en général y parvenir par ce moyen. Note. Si l'on peut dire qu'une science est réelle, au moins dans l'idée de tous les hommes, dès qu'il est certain que les problèmes qui y conduisent sont présentés par la nature à la raison humaine de chacun et qu'ils sont par conséquent l'objet constant, inévitable, d'une multitude de recherches, quoique infructueuses, il faudra dire aussi qu'il y a réellement une métaphysique subjective, et même nécessairement, et se demander alors avec raison comment elle est possible objectivement. Fin de la note. Reprise du texte. Et donc, la troisième question qui s'offre à nous maintenant concerne donc, comme le noyau et l'essence de la métaphysique, c'est-à-dire l'application de la raison à elle-même, et puisqu'elle couvre ses propres notions, la connaissance des objets qui en résultent présumablement, sans avoir besoin pour cela de l'intervention d'expérience, et sans qu'on puisse, en général, y parvenir par ce moyen. Si cette question reste sans réponse, la raison n'est jamais satisfaite. L'usage expérimental auquel la raison restreint l'entendement pur ne remplit pas toute sa propre destinée. Chaque expérience particulière n'est qu'une partie de l'étendue complète de son domaine, mais l'ensemble absolu de toute l'expérience possible n'est plus une expérience. Mais c'est cependant un problème nécessaire aux yeux de la raison pour la simple représentation duquel il lui faut de toute autre notion que ces notions intellectuelles pures, dont l'usage n'est qu'immanent, c'est-à-dire n'a de rapport qu'à l'expérience, si étendue qu'elle puisse être, au lieu que les notions rationnelles ont pour objet l'intégralité, c'est-à-dire l'unité collective de toute l'expérience possible, et, dépassant ainsi, toute expérience donnée devienne transcendante. De même donc que l'entendement a besoin des catégories pour l'expérience, de même la raison contient en soi le principe des idées, c'est-à-dire des notions nécessaires dont l'objet, cependant, ne peut être donné dans aucune expérience. Les dernières sont, dans la nature de la raison, au même titre précisément, que les premières sont dans la nature de l'entendement. Et si celles-là emportent avec elles une apparence qui peut facilement séduire, cette apparence est inévitable, quoi qu'on puisse bien se défendre d'être entraîné. Comme toute apparence consiste en ce que le principe subjectif du jugement est considéré comme objectif, une connaissance de la raison pure par elle-même dans son usage transcendant, infini, sera l'unique préservatif contre les égarements dans lesquels tombe la raison lorsqu'elle s'abuse sur sa destinée et qu'elle rapporte d'une manière transcendante à un objet en soi ce qui ne concerne que son propre sujet et sa conduite dans tout usage immanent. Chapitre 41. La distinction des idées, c'est-à-dire des notions rationnelles pures, d'avec les catégories ou notions intellectuelles pures, comme connaissances entièrement différentes quant à l'espèce, à l'origine et à l'usage, est un point si important lorsqu'il s'agit de fonder une science qui doit contenir le système de toutes ces connaissances a priori, que sans cette distinction, une métaphysique est absolument impossible, ou n'est tout au plus qu'une tentative irrégulière et indigeste, sans connaissance des matériaux dont on s'occupe et de leurs propriétés de servir, suivant un dessin ou un autre, à la construction d'un château de cartes. Quand la critique de la raison pure n'aurait fait qu'établir cette distinction, elle aurait déjà plus contribué par ce moyen à éclaircir notre notion et à diriger la recherche dans le champ de la métaphysique que tous les efforts inutilement déployés pour donner au problème transcendant de la raison pure une satisfaction qu'on a essayé jusqu'ici sans avoir jamais pensé qu'on se trouvait dans un tout autre champ que celui de l'entendement et qu'on donnait un même nom aux notions intellectuelles et aux rationnelles comme si elles étaient de même espèce. Chapitre 42. Le propre de toutes les connaissances intellectuelles est de se donner leurs notions dans l'expérience et de faire confirmer par elles leurs principes. Les connaissances rationnelles transcendantes, au contraire, ne donnent point expérimentalement ce qui concerne leurs idées et ne font jamais confirmer ni infirmer leurs propositions par l'expérience. Par conséquent, l'erreur qui pourrait s'y glisser ne peut être découverte que par la raison pure elle-même, ce qui est très difficile, précisément parce que cette raison est naturellement dialectique avec ses idées, et que cette apparence inévitable ne peut être contenue dans ses justes limites par aucune investigation objective et dogmatique des choses, mais uniquement par des recherches subjectives, par l'examen de la raison même comme source des idées. Chapitre 43. Ma plus grande préoccupation dans la critique a toujours été non seulement de distinguer avec soin les espèces de connaissances, mais aussi de pouvoir seulement assigner à chacune d'elles les notions de sources communes qui lui conviennent, afin de savoir par là non seulement d'où elles proviennent et d'en pouvoir déterminer l'usage avec certitude, mais aussi pour avoir l'avantage encore inattendu jusqu'ici, quoique précieux, de connaître parfaitement, par conséquent, par principe, le nombre, la classification et des espèces des notions a priori. Sans cela, tout en métaphysique n'est que pure rhapsodie, où personne ne sait jamais si ce qu'il possède suffit, ou s'il ne manquerait pas encore quelque chose, et en quoi. on ne peut certainement avoir cet avantage que dans la philosophie pure. C'en est même l'essence. Comme j'avais trouvé l'origine des catégories dans les quatre fonctions logiques de tous les jugements de l'entendement, il était bien naturel de chercher l'origine des idées dans les trois fonctions des raisonnements rationnels. Car, dès qu'une fois des notions rationnelles pures, des idées transcendantales, sont données, elles ne peuvent, à moins qu'on ne veuille les considérer comme innées, être trouvées que dans la même opération rationnelle qui, en tant qu'elle concerne simplement la forme, représente le côté logique des raisonnements rationnels, mais qui, en tant qu'elle représente les jugements intellectuels comme déterminés a priori par rapport à une forme ou à une autre, constitue les notions transcendantales de la raison pure. La différence formelle des raisonnements rationnels rend nécessaire leur division en catégorique, hypothétique et disjonctif. Les notions rationnelles qui trouvent là leur fondement contiennent donc, premièrement, l'idée du sujet parfait, substantiel. Deuxièmement, l'idée de la série complète des conditions. Troisièmement, la détermination de toutes les notions dans l'idée d'un complet ensemble du possible. Note. Dans le jugement disjonctif, nous considérons toute la possibilité par rapport à une certaine notion, comme divisée. Le principe ontologique de la détermination universelle d'une chose en général, de tous les prédicats opposés possibles, il en est un qui convient à chaque chose, qui est en même temps le principe de tous les jugements disjonctifs, suppose l'ensemble de toute la possibilité. Ensemble, où la possibilité de chaque chose en général est regardée comme déterminée. Ceci peut servir jusqu'à un certain point à expliquer le principe précédent, à savoir que l'acte de la raison dans les raisonnements rationnels est le même quant à la forme que celle qui lui sert à produire l'idée d'un ensemble de toute réalité, idée qui contient le positif de tous les prédicats opposés entre eux. Fin de la note. Reprise du texte. La première idée était psychologique, la seconde, cosmologique, la troisième, théologique. Et comme toutes trois prêtent à une dialectique, et cependant chacune d'elles à sa manière, la division de toute la dialectique de la raison pure opère en conséquence comme il suit. Le paralogisme, l'antinomie et l'idéal de la raison pure. Par cette dérivation, nous sommes parfaitement sûrs que toutes les prétentions de la raison pure se trouvent ici pleinement représentées, qu'il n'en est aucune qui n'y trouve sa place, parce que la faculté de raisonner elle-même, d'où elle tire toute leur origine, est par là complètement parcourue. Chapitre 44. Une chose encore digne de remarque dans cette étude en général, c'est que les idées rationnelles ne servent pas, comme les catégories, à l'usage de l'entendement par rapport à l'expérience. Elles sont parfaitement inutiles à cet égard. Elles sont même contraires aux maximes de la connaissance rationnelle de la nature. Quoique cependant nécessaires à d'autres égards, encore à déterminer. Que l'âme soit ou ne soit pas une substance simple, c'est ce qui est tout à fait indifférent pour l'explication de ces phénomènes, car nous ne pouvons par aucune expérience possible rendre sensible, par conséquent faire comprendre in concreto la notion d'un être simple. Cette notion est donc tout à fait vaine par rapport à tout ce qu'on pouvait espérer de connaître en fait de cause des phénomènes. Il ne peut servir de principe pour expliquer ce que nous présente l'expérience interne ou externe. Les idées cosmologiques du commencement du monde ou de son éternité nous servent aussi peu à expliquer un événement dans le monde même. Enfin, nous devons, suivant une juste maxime de la philosophie de la nature, nous abstenir de toute explication de l'arrangement des choses qui serait tirée de la volonté d'un être suprême, parce que ce n'est plus là de la philosophie naturelle, mais un aveu du terme de notre connaissance. Ces idées ont donc une toute autre destination pratique que les catégories qui seules, avec les principes dont elles sont le fondement, rendent l'expérience possible. Cependant, notre laborieuse analytique de l'entendement serait tout à fait superflue si nous n'avions d'autre but que la simple connaissance de la nature, telle qu'elle peut être donnée dans l'expérience, car la raison s'acquittera sûrement et bien de sa tâche en mathématiques et en physique, sans toute cette subtile déduction. Notre critique de l'entendement avec des idées de la raison pure tend à un but plus élevé que l'usage expérimental de l'entendement, but dont plus haut nous avons dit cependant qu'il est à cet égard tout à fait impossible et sans objet ou signification. Mais il doit néanmoins y avoir accord entre ce qui appartient à la nature et à la raison, et celle-là doit contribuer à la perfection de la seconde et ne peut la confondre. La solution de cette question est la suivante. La raison n'a pas, en perspective, dans ses idées, des objets particuliers qui dépassent le champ de l'expérience. Elle ne demande au contraire que la plénitude de l'usage intellectuel dans l'enchaînement de l'expérience. Mais cette plénitude ne peut être que celle des principes et non celle des intuitions et des objets. Néanmoins, pour se les représenter déterminément, elle les conçoit comme la connaissance d'un objet, connaissance parfaitement déterminée par rapport à ses règles, mais dont l'objet n'est qu'une idée, afin d'approcher aussi près que possible de la connaissance intellectuelle de la perfection indiquée par l'idée. Chapitre 45. Observation préliminaire sur la dialectique de la raison pure. Nous avons fait voir précédemment, chapitres 34 et 35, que la pureté, où sont les catégories de tout mélange de détermination sensible, peut conduire la raison à étendre leur usage au-delà de toute expérience, c'est-à-dire aux choses en soi. Quoique, par le fait qu'elles ne trouvent pas d'intuition qui puisse leur donner sens et signification in concreto, elles représentent, comme fonction purement logique, une chose en général, il est vrai, mais sans pouvoir donner, par elles seules, une notion déterminée d'une chose quelconque. Ces objets hyperboliques sont donc ceux qu'on appelle noumènes, ou êtres intellectuels purs, ou mieux, être de raison, tel par exemple qu'une substance, mais qui est conçue sans permanence dans le temps, ou une cause, mais qui n'agit pas dans le temps, etc. Puisqu'on leur donne des prédicats qui ne servent qu'à rendre possible la légitimité de l'expérience et qu'on en détache cependant toutes les conditions de l'intuition sous lesquelles seule l'expérience est possible, et qu'ainsi ces notions perdent toute signification. Mais s'il n'y a pas de danger que de lui-même, sans y être forcé par des lois étrangères, il sorte de ses bornes et s'élance aussi témérairement dans le champ des purs êtres de raison. Mais si la raison, qui ne peut être pleinement satisfaite d'aucun usage expérimental des règles de l'entendement, usage toujours conditionné, veut être délivré de cette chaîne de conditions. L'entendement est alors poussé hors de sa sphère, en partie pour représenter des objets sensibles, dans une série si étendue qu'aucune expérience ne peut les embrasser, en partie même, afin de la compléter, pour chercher tout à fait en dehors d'elle des noumènes, auxquels la raison puisse rattacher cette chaîne, et par là en rendre enfin, tout d'un coup, la tenue pleinement indépendante des conditions expérimentales. Telles sont donc les idées transcendantales, qui, si elles ne sont pas, suivant la fin, vraie mais cachée, de la destination naturelle de notre raison, rapportée à des notions indéfinies, mais simplement à l'extension illimitée de l'usage expérimental, surprennent cependant, par une apparence inévitable, un usage transcendantal de l'entendement. Et cet usage, quoique trompeur, ne peut par aucune résolution être renfermé dans les limites de l'expérience. Une instruction scientifique peut seule, et même à la condition d'un effort, les retenir. Chapitre 46. Idées psychologiques. Critique, tome 2, page 41. On a remarqué depuis longtemps que dans toutes les substances, le sujet propre, c'est-à-dire ce qui reste après que tous les accidents, comme prédicat, ont été séparés. Par conséquent, le substantiel même nous est inconnu et déploré souvent ses limites de notre connaissance. Mais ce qui est très digne de remarque en cela, c'est qu'il ne faut pas faire un crime à l'entendement humain de ce qu'il ne connaît pas, le substantiel des choses, c'est-à-dire de ce qui ne peut le déterminer par lui seul, mais plutôt de ce qui désire le connaître, déterminer comme une simple idée à l'égard d'un objet donné. La raison pure exige que nous cherchions à tout prédicat d'une chose le sujet correspondant, et à ce sujet, qui nécessairement n'est à son tour qu'un prédicat, le sujet qui peut aussi lui correspondre, et ainsi de suite à l'infini, ou tant que nous y suffirons. D'où il suit que nous ne devons rien tenir pour sujet dernier de ce à quoi nous pouvons parvenir, et que le substantiel même ne peut jamais être conçu par notre entendement, si profondément qu'il pénètre, alors même que toute la nature lui serait révélée, par la raison que l'essence spécifique de notre entendement consiste à tout concevoir discursivement, c'est-à-dire par notion, par conséquent, par de purs prédicats, auxquels dès lors doit toujours manquer de sujet absolu. Toutes les propriétés réelles par lesquelles nous connaissons les corps ne sont donc aussi que de purs accidents. Même l'impénétrabilité, que l'on ne doit jamais se représenter que comme l'action d'une force dont le sujet nous échappe. Mais il semble que nous ayons dans notre conscience même, le sujet pensant, ce quelque chose de substantiel, et même en une intuition immédiate. Car tous les prédicats du sens intime se rapportent au moi comme sujet, et ce sujet ne peut être à son tour conçu comme prédicat de quelque autre sujet. La plénitude des notions données comme prédicat par rapport à un sujet ne semble donc pas être une simple idée, mais bien l'objet, c'est-à-dire le sujet absolu même, donné dans l'expérience. Mais cette attente est vaine, car le moi n'est pas une notion. Note. c'est la représentation de la perception, le moi, était une notion qui servait à penser quelque chose, elle pourrait aussi être employée comme prédicat d'une autre chose, ou contenir en soi de ses prédicats. Or, ce n'est rien de plus que le sentiment d'une existence sans la moindre notion. Ce n'est que la représentation de ce à quoi se rapporte toute pensée. Fin de la note, reprise du texte. Mais cette attente est vaine, car le moi n'est pas une notion. Ce n'est que la désignation de l'objet du sens intime en tant que nous ne le connaissons par aucun prédicat plus profond. Il ne peut, il est vrai, servir à ce titre de prédicat à une autre chose, mais s'il ne peut être davantage une notion déterminée d'un sujet absolu. Il n'est, comme dans tous les autres cas, que le rapport des phénomènes internes à leur sujet inconnu. Néanmoins, cette idée, qui sert très bien comme principe régulateur, à renverser complètement toutes les explications matérialistes des phénomènes internes de notre âme. Par un malentendu très naturel, et l'occasion d'un argument fort spécieux, qui conclut de cette prétendue connaissance du substantiel de notre être pensant, sa nature, en tant que sa connaissance dépasse entièrement l'ensemble de l'expérience. Chapitre 47. Ce même pensant, l'âme, comme dernier sujet de la pensée, qui ne peut même pas être représenté comme étant à son tour le prédicat d'une autre chose, peut donc s'appeler substance. Mais cette notion n'en est pas moins entièrement vide, sans aucune conséquence possible, si l'on en peut démontrer la permanence, comme ce qui féconde expérimentalement la notion de substance. Or, la permanence ne peut jamais être déduite de la notion d'une substance comme chose en soi, mais seulement en faveur de l'expérience. C'est ce qui a été suffisamment prouvé dans la première analogie de l'expérience, critique page 122. Et si l'on ne veut pas se rendre à cette preuve, on n'a qu'à voir si l'on réussira dans la tentative de prouver par la notion d'un sujet qui lui-même n'existe pas comme prédicat d'une autre chose, que son existence est absolument permanente et qu'il ne peut subsister ou périr ni par soi-même, ni par quelque autre cause naturelle. Ces propositions synthétiques, a priori, ne peuvent jamais être prouvées en elles-mêmes, mais uniquement par rapport aux choses, comme objet d'une expérience possible. Chapitre 48. Si donc nous voulons conclure de la notion de l'âme comme substance à sa permanence, ce raisonnement ne peut lui convenir qu'à l'égard de l'expérience possible, et non en tant qu'elle est une chose en soi, et en dehors de toute expérience possible. Or, la condition subjective de toute notre expérience possible est la vie. La permanence de l'âme ne peut donc être conclue que pendant la vie, puisque la mort de l'homme est la fin de toute expérience. Ce qui concerne l'âme comme objet d'elle-même, le contraire n'étant pas prouvé, est précisément ce qui est en question. La permanence de l'âme ne peut être prouvée que dans la vie de l'homme, permanence dont la preuve nous sera facilement accordée. Mais elle ne saurait être établie pour le temps qui doit suivre la mort, ce qui est précisément l'objet de notre recherche. Et cela par la raison générale que la notion de substance, en tant qu'elle doit être considérée comme nécessairement liée à la notion de permanence, ne le peut être que suivant un principe de l'expérience possible, et par conséquent, dans l'intérêt de cette expérience, seulement. Note. C'est une chose remarquable que les métaphysiciens aient toujours passé si légèrement sur le principe de la permanence des substances, sans jamais en rechercher la preuve. C'est sans doute parce que, aussitôt qu'ils commençaient par la notion de substance, ils se trouvaient destitués de toute preuve. Le sens commun, qui s'était bien aperçu que sans cette supposition, il n'est pas possible de lier des perceptions dans une expérience, répara ce défaut par un postulat, car il ne pouvait jamais tirer de l'expérience même ce principe, tant parce qu'elle ne peut pas suivre les corps, substances, dans tous leurs changements et résolutions, assez loin pour en trouver toujours la matière non amoindrie, que, parce que le principe renferme une nécessité qui est toujours la marque d'un principe a priori. Ils ont donc appliqué ce principe à la notion de l'âme comme à une substance, et ont conclu à sa durée nécessaire après la mort de l'homme, par la raison surtout que la simplicité de cette substance, qui était conclue de l'indivisibilité de la conscience, les assurait de l'impérissabilité par dissolution. S'ils avaient trouvé la véritable source de ce principe, ce qui demandait des recherches plus approfondies qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'en faire, ils auraient vu que cette loi de la permanence des substances n'a lieu que pour l'expérience et n'a par conséquent de valeur que par rapport aux choses en tant qu'elles doivent être connues et unies à d'autres dans l'expérience, mais jamais aux choses mêmes, sans considération de toute expérience possible. Par conséquent, pas non plus par rapport à l'âme après la mort. Fin de la note, retour au texte. Chapitre 49. Que quelque chose de réel hors de nous corresponde et doive même correspondre à nos perceptions extérieures, c'est ce qui ne peut non plus être jamais prouvé, comme liaison des choses en soi, mais bien au point de vue de l'expérience. Ce qui veut dire qu'on peut bien prouver que quelque chose existe d'une manière empirique, par conséquent, comme phénomène dans l'espace hors de nous. Car nous n'avons pas affaire à d'autres objets que ceux qui appartiennent à une expérience possible, parce qu'ils ne peuvent être donnés dans aucune expérience, et par le fait, ne sont rien pour nous. Est empiriquement hors de moi ce qui est perçu dans l'espace. Et comme l'espace, avec tous les phénomènes qu'il contient, appartient aux représentations dont la liaison, suivant des lois expérimentales, ne prouve pas moins leur vérité objective que la liaison des phénomènes du sens intime ne prouve la réalité de mon âme comme objet du sens intime. Je suis aussi conscient par l'expérience externe de la réalité des corps, comme phénomènes extérieurs dans l'espace, que je le suis par le moyen de l'expérience interne de l'existence de mon âme dans le temps, que je ne connais également que comme objet du sens intime par des phénomènes qui constituent un état interne et dont l'être en soi, qui sert de base à ces phénomènes, m'est inconnu. L'idéalisme cartésien ne distingue donc que l'expérience externe du rêve et la régularité comme critérium de la vérité de l'expérience d'avec l'irrégularité et la fausse apparence du rêve. Il suppose dans les deux cas un espace et un temps comme condition de l'existence de l'objet et se demande seulement si des objets des sens extérieurs qu'à l'état de veille nous plaçons dans l'espace s'y trouve réellement, de même que l'objet du sens intime, l'âme, est réellement dans le temps, c'est-à-dire si l'expérience emporte avec soi des critères certains d'une différence avec l'imagination. Le doute est ici facile à dissiper, et nous le faisons toujours céder dans la vie commune en recherchant la liaison des phénomènes dans les deux milieux, suivant les lois universelles de l'expérience, et nous ne pouvons douter, Si la représentation des choses extérieures se trouve constamment d'accord avec ces lois, qu'elles ne doivent constituer la véritable expérience. L'idéalisme matériel. Lorsque les phénomènes ne sont considérés comme phénomènes que suivant leur liaison dans l'expérience, et donc facile à dissiper, et l'expérience de l'existence des corps hors de nous, dans l'espace, est aussi sûre que celle de mon existence dans le temps. Car la notion hors de nous ne signifie que l'existence dans l'espace. Mais comme le moi, dans la proposition « je suis », n'indique pas seulement l'objet de l'intuition interne dans le temps, mais aussi le sujet de la conscience. De même qu'un corps n'indique pas seulement l'intuition externe dans l'espace, mais aussi la chose en soi, qui sert de fondement à ce phénomène, alors la question, si les corps, comme phénomène du sens externe, existent hors de ma pensée comme corps, peut être nié, sans hésiter, dans la nature. Mais il en est absolument de même dans la question de savoir si j'existe moi-même dans le temps, comme phénomène du sens intime, âme suivant la psychologie empirique, en dehors de ma faculté représentative dans le temps. Car cette question doit également recevoir une solution négative. Tout étant ainsi réduit à sa véritable signification, reçoit une solution décisive et certaine. L'idéalisme formel, que j'appelle autrement transcendantal, fait réellement disparaître l'idéalisme matériel ou cartésien. En effet, si l'espace n'est qu'une forme de la sensibilité, il est aussi réel en moi comme en représentation que moi-même, et il ne s'agit encore là que de la vérité empirique des phénomènes. Mais s'il n'en est pas ainsi, et que l'espace et les phénomènes qu'il contient soient quelque chose d'existant hors de nous, alors tous les critères de l'expérience ne pourront jamais prouver, en dehors de la perception, la réalité de ces objets extérieurs à nous.